Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question d'un clapier, d'un rayon de lumière en plein cœur et d'une ville pauvre. Je vous présente, écoutez-moi jusqu'à la fin, un roman de Tess Gunty paru chez Gallmeister en 2023. Il a été traduit de l'américain par Jacques Mayos et paru aux États-Unis en 2022 sous le titre The Rabbit Hutch, le clapier. Écoutez-moi jusqu'à la fin est le premier roman de l'autrice qui a reçu le National Book Award en 2022. Tess Gunty est la plus jeune autrice américaine à avoir reçu ce prix prestigieux. Et effectivement, après avoir achevé la lecture de ce roman, je me suis dit que j'étais en face d'une œuvre majeure, et puis aussi certainement face à une des futures autrices phares de la littérature américaine. Alors, ce roman n'est pas forcément d'une approche facile, il faut accepter d'être déstabilisé. Dans une interview sur France Culture à Bienvenue au Club, le 31 mars 2023, Tess Gunty déclare justement « Je voulais que ce livre soit comme un mythe, une fable instable ». Alors, effectivement, il est assez difficile de résumer « Écoutez-moi jusqu'à la fin ». Tout d'abord parce que l'on est face à de multiples personnages insolites. La plupart habitent dans un immeuble à loyer modéré surnommé le Clapier, The Rabbit Hutch, qui se trouve dans la petite ville fictive de Vacaville, en Indiana. L'appartement C4 est occupé par trois jeunes garçons et une jeune fille qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et dès la première page, Blandine, la jeune fille, fait une expérience mystique de sortie de son corps. Voici ce début, vous allez très bien percevoir, je crois, ce que Tess Gunty entendait par « fable instable ». Par un soir de chaleur dans l'appartement C4, Blandine Watkins sort de son corps. Elle n'a que 18 ans, mais elle a passé l'essentiel de sa vie à souhaiter que cela se produise. C'est une douce souffrance, comme l'ont promis les mystiques. « C'est comme si votre âme se faisait transpercer par des lames de lumière », disaient les mystiques, et elles avaient raison sur ce point-là aussi. Les mystiques appellent cette expérience la transverbération du cœur, ou bien l'assaut du séraphin, mais nul ange n'apparaît à Blandine. Elle voit en revanche un quinquagénaire bioluminescent qui luit comme une luciole. Il court vers elle en hurlant. Couteau, coton, sabot, eau de javel, douleur, fourrure, extase. Tandis qu'elle sort d'elle-même, Blandine est tout cela. Elle est tous les résidents de son immeuble. Elle est déchets et chérubins. Elle est une chaussure en caoutchouc au fond de l'océan. Elle est la combinaison orange de son père. Elle est une brosse lissant les cheveux de sa mère. La première et dernière usine automobile Zone de Vacaville, dans l'Indiana. Alors vous voyez, le corps martyrisé de Blandine contient son appartement, l'immeuble, la ville et même le monde, dans cette première page qui devient une véritable vision. Il faut accepter de glisser dans un monde étrange qui comporte d'autres personnages tout aussi atypiques. Alors vous rencontrerez entre autres un quinquagénaire qui enduit son corps de produits phosphorescents pour terroriser des gens dont il veut se venger, un couple de personnes âgées dont la femme cherche à tout prix à renvoyer les souris mortes que l'on jette chez elle, et puis moi j'aime particulièrement le personnage de Joanne, cette femme qui vit dans une solitude terrible. Elle travaille en tant que modératrice des commentaires faits sous les annonces nécrologiques d'une entreprise de pompes funèbres, tout un programme. L'instabilité du roman provient aussi des changements de ton. Il y a de l'humour dans ce récit, un humour décalé, là encore. Blandine, la jeune fille de l'appartement C4, est surdouée, même si elle a arrêté ses études. Elle a du mal à communiquer avec autrui. Voilà une partie de la conversation qu'elle mène à la laverie avec Joanne, la modératrice des commentaires des annonces nécrologiques dont je vous parlais tout à l'heure. « Vous avez une mangeoire à oiseaux ?» demande Blandine, changeant de sujet. « Pardon ? C'est juste que vous avez l'air d'être le genre de personne qui a une mangeoire à oiseaux. »« Non, » répond Joanne. « Vraiment ? Oui. Vous n'avez jamais eu de mangeoire à oiseaux ?»« Non. Même quand vous étiez petite ?»« Jamais. »« Ah !» Blandine remet le livre de la bibliothèque dans son sac. « Bon, Joanne, je vous le dis comme un secret. Mais moi, je vais me lancer dans le mysticisme. Je crois que j'ai toutes mes chances. » D'après ce que j'ai pu voir, le théisme n'est pas un prérequis absolu. Tout ce que je veux, c'est sortir de mon corps. Joanne tousse. Ah ! Je crois qu'on devrait tous se prendre un peu plus au sérieux les uns les autres. Silence. Peut-être, murmure Joanne. Parfois, je marche dans la rue, je me cogne contre les gens, je les écoute plaisanter, se disputer, éternuer, avec cette impression que personne n'est réel, même pas moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Joanne la regarde dans les yeux pour la première fois. Oui. C'est ce que dit Simone Veil, savoir que cet homme, qui a faim et soif, existe vraiment autant que moi. Cela suffit, le reste suit de lui-même. Simone était une vraie mystique. Blandine se mord un ongle. Je me demande bien ce qu'est le reste. Nouveau silence. Je suis contente de vous avoir rencontré, dit Blandine. Ce serait bizarre qu'on reste des inconnus entre voisines, vous ne trouvez pas ?
Oh, ouais. Nous ne sommes tous que des somnambules.
« Vous voulez que je vous dise, Joanne ? Je veux me réveiller. C'est mon rêve, me réveiller. » Pourtant,
La force du roman de Tess Conti, c'est qu'au travers de ce monde et de ces personnages quelque peu décalés, hein, comme vous le voyez, elle nous parle bien de notre monde. La ville fictive de Vacaville est, de l'aveu même de l'autrice, calquée sur la ville où elle est née, South Bend, en Indiana. C'est une ancienne ville industrielle, dont les usines sont devenues des friches, une ville où règne la pauvreté, le chômage, et le programme de revitalisation lancé récemment n'ouvre pas forcément des perspectives plus réjouissantes. Le jury qui a décerné à Tess Conti le National Book Award a déclaré « Ce roman est un instantané de l'Amérique d'aujourd'hui ». Et Tess Conti elle-même affirme dans l'interview à France Culture que nous avons déjà citée « J'ai vu que ces formes de violence structurelle avaient un impact sur mon quartier. Elles existaient aussi plus largement dans l'État, dans le pays, dans le monde. Je voulais regarder ça à une toute petite échelle, vraiment micro, celle d'un seul immeuble sur une durée de 3 jours ». Voici une déambulation de Blandine dans sa ville. Je trouve qu'elle correspond bien à cette volonté de l'autrice. Tandis qu'elle marche, elle entend les défunts usines Zorn, même si elle ne les voit pas. Elle les entend toujours. Un bourdonnement, froid, humide, dissonant. En 1967, un groupe d'hommes a tenté d'incendier l'usine dans laquelle ils travaillaient jadis. Mais elle était trop humide à l'intérieur pour prendre feu. Les voix de l'usine sont plus puissantes la nuit, en février, et après une nuit d'insomnie. Les usines polluent l'air avec leur histoire, exactement comme elles le polluaient jadis avec leur fumée chimique noire. Le prix de la surabondance. Reliques, ruines, fantômes, les usines Zorn insistent sur elles-mêmes. Les écoutant en ce moment même, Blandine se rend compte qu'elles sont loin de se douter, qu'elles sont sur le point de se faire éviscérer pour être transformées en une mauvaise imitation de la Silicon Valley. Une forme d'étrangeté effrayante remplacée par une autre. Alors là encore, vous voyez comment le réalisme et l'imaginaire, la rêverie s'entremêlent. Le roman est aussi surprenant, déstabilisant par la diversité de sa forme. Il contient des extraits d'écrits de la mystique du Moyen-Âge Hildegarde de Bingen, une mystique que vénère Blandine. On trouve également des dessins, un récit qui ressemble à un poème, ou encore des échanges de conversations sur Internet. De la même manière que dans le premier chapitre, l'esprit et le corps de Blandine contenaient sa ville et le monde, le roman de Tess Conti capture le nôtre sous la forme d'une vision déstabilisante par son étrangeté. J'ai pensé, en lisant ce grand roman surprenant, à une œuvre qui fait partie du voyage à Nantes. Il s'agit d'Éloge du pas de côté de Philippe Ramette. Cette sculpture, que l'on peut trouver place du Bouffay à Nantes, donc, représente sous les traits de l'artiste un personnage masculin en costume, le regard tourné vers l'horizon. Seul un pied repose sur le socle, l'autre s'en échappe. Le roman de Tess Conti représente bien ce pas de côté de l'artiste. Un pied ici, un pied ailleurs, dans un déséquilibre, une instabilité qui déroute le spectateur pour mieux, comme le souhaitait Blandine, l'éveiller. Alors j'espère que vous serez comme moi surprise par la force visionnaire de Tess Conti, dont le roman Écoutez-moi jusqu'à la fin est paru en 2023 chez Gallmeister. Et puis vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.